L'heure des sages.
Je suis avec Gérard Longuet et Sylvie Carlet, que j'ai le plaisir de retrouver à Paris. Nous allons parler du tantra et aussi spécifiquement de votre travail d'accompagnement autour du tantra que vous appelez l'écologie intérieure. Bah déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun ?
Bonjour Anne-Claire. Bien écoute, on pourrait dire que ce que nous faisons Gérard et moi depuis un certain nombre d'années, cet accompagnement qu'on a appelé l'écologie intérieure, et le fruit en fait de nos deux parcours. Et nos deux parcours, le mien comme le sien, sont des parcours qui remontent quand même à notre jeune âge, on pourrait dire, jeune adulte, où de mon côté, j'ai suivi donc les enseignements de plusieurs maîtres, à commencer d'abord par la tradition d'un alchimiste, on va dire, alchimiste templier, donc on va dire plutôt dans la tradition occidentale, et puis un certain nombre de, pas d'années, parce que ça, à cette époque-là, on comptait plutôt un mois, la rencontre, évidemment, qui a été extraordinaire pour moi, avec les enseignants tibétains de la lignée Kagyupa, donc, qui est la lignée de Kalo Rinpoche. Donc avec ces lamas, j'ai évidemment appris un peu les bases de la méditation et surtout les fondamentaux du bouddhisme, qui m'accompagnent encore toujours aujourd'hui, qui sont pour moi une façon d'expliquer des notions très importantes, comme en particulier la non-dualité, qui était pour moi vraiment très très difficile à appréhender dans ma culture catholique. Ensuite, plusieurs années, plusieurs migrations auprès d'autres maîtres, en particulier donc du maître qui à l'époque s'appelait Bhagwan Sri Rajneesh, qui a été renommé plus tardivement Osho. Voilà. Ensuite, évidemment, beaucoup d'années de travail personnel dans la créativité, puisque moi je suis une artiste, et ensuite de transmission à travers la créativité, qui s'est donc mariée avec tout le reste de ma démarche, et à travers laquelle j'ai pu aussi travailler au niveau du tantra, en accompagnement et en co-animation avec Sudhir Roche, qui est donc un des enseignants du tantra, jusqu'à ce qu'il y a maintenant, je ne sais plus, on ne compte même plus, un certain nombre d'années, Gérard et moi collaborons et nous avons donc créé ce mouvement presque, cette philosophie de vie qu'on a appelée l'écologie intérieure.
Alors Gérard, une présentation ?
Alors moi je vais partir d'aujourd'hui, finalement, plutôt que de remonter dans le passé. Alors aujourd'hui je suis ostéopathe, mon accès principal on va dire passe par le corps, un corps en bonne santé, un corps en mouvement, un corps libre, me semblait être le point de départ, la première brique pour construire en fait ce concept de l'écologie intérieure. Donc ça fait plus de 22 ou 23 ans que je pratique cet art thérapeutique. J'ai eu le bonheur, évidemment, dans ma vie, à peu près dès l'âge de 17 ans, de rencontrer un certain nombre de maîtres, dont un maître qui est assez connu du grand public, qui m'a, ouvert les yeux de l'âme. J'ai suivi pendant peut-être 20 ou 25 ans. Il s'agit de Maharishi Mahesh Yogi, qui est très connu pour avoir été le maître des Beatles, enfin de grandes personnalités comme ça. Et puis en filigrane, pour moi, ce qui était le plus important, à l'opposé du corps, c'était le contact avec la nature. D'où mon approche, je dirais, de la nature via le chamanisme, qui en filigrane est toujours présent et qui vient justement former un des piliers importants du travail que nous accomplissons, Sylvie et moi.
Pour commencer cette interview, qui est portée plus spécifiquement sur le tantra, bien sûr, on n'oublie pas votre approche en termes d'accompagnement. Qu'est-ce que c'est le tantra ? Parce que c'est vrai que dans l'esprit des gens, on associe ça beaucoup à la sexualité. Est-ce que c'est une méthode ? C'est une philosophie ? Les deux à la fois ?
Ce que je peux dire pour démarrer, c'est que À mes yeux, le tantra, c'est l'art, en fait, de tisser l'énergie. Nous faisons ça en permanence, à notre insu. Nous avons des échanges d'énergie en permanence, évidemment, avec l'environnement, avec les autres. Nous avons des échanges d'énergie à l'intérieur de nous-mêmes. On va faire passer de l'énergie vitale, par exemple, vers l'espace de la sexualité, de l'espace de la sexualité peut-être vers le cœur, de l'espace du cœur ou de notre vitalité vers l'espace de la parole, de la pensée. Donc d'une certaine manière, on peut dire que le tantra, c'est l'art de fluidifier en fait notre énergie et de la rendre disponible vers l'espace de la verticalité. Alors ça, c'est pas une définition, je dirais, du tantra classique. Mm-hmm. C'est comment nous le voyons. Donc peut-être que Sylvie, si tu veux, tu peux nous donner une définition plus précise du tantra traditionnel, parce que je sais que tu as beaucoup étudié cette question.
Tu l'as pratiqué aussi en Inde, je crois.
Moi, parler de la tradition, c'est pas non plus quelque chose qui est vraiment mon axe, on va dire, de compréhension ou même de transmission. Cependant, je pense que c'est important de faire référence à la tradition en termes aussi de compréhension, parce que ça fait des millénaires que les humains se posent des questions. Ça fait quand même des millénaires qu'il y a des gens éveillés. Et la quintessence de l'humanité, elle n'est pas différente en fait maintenant qu'il y a 2, 3000, 4000 ans. Et nous avons dans la tradition, par exemple bouddhiste, des sutras, des textes qui font référence évidemment à ce que c'est que le tantra dans la tradition, qui sont totalement intemporels. Donc c'est pour ça que pour nous, le tantra n'a pas d'âge. Même si par exemple, on peut parler des traces historiques du tantra dans la vallée de l'Indus ou à d'autres endroits de l'Orient ou du Moyen-Orient, ça ne va pas spécialement nous aider, si ce n'est de savoir que pendant des périodes historiques de paix, les humains les plus intelligents, et ceux qui étaient évidemment avaient un leadership, on imagine, n'ont eu de cesse que d'installer des civilisations qui respectaient l'homme, la femme, et aussi qui respectaient l'environnement et la façon de vivre, de façon que puisse se développer cette philosophie de vie, cette philosophie de sagesse qu'est le tantra, qui est en fait une approche d'un yoga tout simplement qui n'exclut rien, parce qu'il y a plusieurs types de yoga. Certains yogas sont des yogas qui, on va dire, sont pratiqués par exemple dans les monastères, d'autres types de yogas qui sont pratiqués plus de manière traditionnelle et religieuse, avec des pratiques par exemple de mantra, de prière, que sais-je encore. Et puis il y a les pratiques du tantra qui sont en fait, qu'il n'y a pas de pratique spécifique autre que l'attention qu'on porte à l'instant. Que ce soit à travers des exercices spécifiques, comme on peut en trouver par exemple dans les textes du Vijnana Bhairava Tantra, qui est le tantra cachemirien, où on voit bien qu'il y a certains exercices qu'on nous fait faire sur, par exemple, la vision, regarder loin, rentrer dans la spatialité, enfin bon, des sutras, il y en a à peu près 108. Et puis, dans ces 108 pratiques traditionnelles, on va en trouver quelques pratiques qui vont être spécifiquement des pratiques sur la sexualité.
Est-ce que c'est pas ce qu'on différencie du tantra rouge ou du tantra blanc ?
Ça, pour moi, la notion de tantra rouge, blanc, arc-en-ciel, enfin, etc., c'est vraiment, sans dévaloriser ce travail, c'est une marque partielle, en fait, de ce qu'est le tantra. C'est une façon indicative de dire, par exemple, le tantra rouge va plutôt s'intéresser à l'espace de la sexualité. Le tantra rose va s'intéresser, je ne sais pas, au vert, va s'intéresser au cœur. Nous, notre propos, c'est d'essayer justement de restituer l'intégralité de la démarche de l'individu. Comme l'a si bien dit Sylvie, il y a une dimension totalement universelle, intemporelle, non chronologique finalement. Ça ne se met pas dans le temps. Et c'est un enseignement donc, qui va nous conduire d'une certaine manière dans un espace de non-dualité, c'est-à-dire un peu comme au cœur d'un cyclone où il n'y a pas de mouvement. Donc l'idée me paraît un peu limitante de proposer finalement un tantra coloré, etc. Alors c'est bien pour trier la clientèle. Et l'idée en fait de vouloir réduire ou limiter ou focaliser simplement le travail tantrique sur la sexualité, je pense que c'est de l'ordre de la confusion. C'est vouloir limiter un repas magnifique où il y aurait plein de plats possibles, plein de relations conviviales avec des gens, à simplement, les amuse-bouches dans la vie. Quoi. Pour moi, c'est trop limité. Donc la sexualité est incluse dans la démarche tantrique, elle n'est pas rejetée, mais nous considérons que le tantra doit inclure la sexualité au même titre que d'autres aspects qui sont plus, entre guillemets, élevés au-dessus de la ceinture. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment vital.
Donc, en fait, lorsqu'on pratique le tantra, on active cette énergie qui est située dans le bassin et qu'on appelle la kundalini dans la tradition.
En général, dans la tradition, le mot qui est choisi, effectivement, kundalini, donc kunda, énergie, lini, colonne, simplement l'éveil, enfin, ou la possibilité d'éveiller ce potentiel d'énergie qui est, de par la tradition, supposé être endormi à la base de la colonne vertébrale, au fond du bassin. Et l'éveil, c'est commencer à éveiller l'énergie à partir de cet endroit-là. Alors, on va dire, pour aller où et pour en faire quoi ? Voilà. J'imagine.
Tout à fait. Je rajouterais bien quelque chose à cette explication qui est certes tout à fait traditionnelle dans la façon de le nommer, c'est-à-dire parler de la kundalini. Alors, dans la spécificité de ce que nous faisons avec Gérard, on va aussi intégrer au niveau de la compréhension de la sexualité un étage légèrement inférieur, enfin, en tout cas qui n'est pas vraiment fréquemment expliqué dans les traditions, qui est la force sous-jacente à la sexualité, qui est aussi ce qu'on appelle le pouvoir, la puissance, parce qu'il fallait bien aussi que l'animal humain, à son origine, puisse en fait se déplacer et avoir suffisamment de puissance pour pouvoir survivre et nourrir sa famille. Donc il est obligé d'aller chercher en lui une sorte de force de prédation, une sorte de partie de lui-même qui est très profonde, que nous on a appelé par exemple la puissance, cette puissance se traduisant par une sorte de pouvoir, que ce soit le pouvoir de soumettre le gibier ou sa proie, mais aussi bien entendu défendre son territoire. Et ça, ce sont des fonctionnements qui sont engrammés dans notre cerveau reptilien, et ces parties-là existent toujours en nous. Or, ce sont des parties de nous qui sont extrêmement laissées en jachère, si je puis dire, au niveau de l'inconscience, et c'est recouvert par énormément de couches, de strates d'énergie stagnante pour bien des cas. Et cette énergie-là, elle est peu souvent circulante dans le sens de relier cette énergie soit à la sexualité, soit, comme disait Gérard tout à l'heure, au niveau des différents centres psycho-énergétiques qu'on appelle chakras, à travers lesquels cette fameuse kundalini doit s'élever. Donc voilà, tout le propos de notre travail par rapport au tantra va être de mettre des mots simples et compréhensibles, sans que ce soit des termes très compliqués, sanskrit ou je ne sais trop quoi, de façon à ce que les humains sentent qu'ils ont la responsabilité de leur propre éveil et que ça n'est pas quelque chose de si compliqué et si ésotérique que ça. Hier, comme vous le savez, c'était la journée sur la violence faite aux femmes. Je pense que c'est extrêmement d'actualité de considérer que cette force brutale qui fait qu'il y a une femme sur 10 qui est agressée et je ne sais combien qui meurt chaque jour sous les coups des hommes qui les frappent ou qui les violent. Je pense que quand même c'est un sujet de société suffisamment important pour qu'on puisse amener de la conscience dans toutes ces parties de nous-mêmes, c'est-à-dire la violence qui sous-tend la sexualité. Parce que pourquoi cette violence émerge au moment où j'entendais à la radio hier, paraît-il que c'est au moment où la femme est enceinte qu'il y a le plus de violence envers les femmes. Moi, je n'ai pas entendu à la radio qui parlait de ce que moi m'a sauté évidemment à la tête, c'est d'imaginer qu'évidemment, comme la femme est moins disponible pour la sexualité pendant qu'elle est enceinte, en tous les cas au moins sur la fin de la grossesse, ben l'homme, il ne sait pas quoi faire avec sa frustration, avec son énergie. Il est incapable d'assumer sa propre énergie de sexualité parce qu'il ne sait pas que cette énergie peut être métabolisée dans des parties subtiles de lui-même.
C'est-à-dire que trop souvent, la sexualité, et donc ce qu'on pourrait appeler l'énergie sexuelle, est une façon de dériver l'énergie de violence et de colère. Donc la sexualité n'a absolument pas, c'est même pas une sexualité ordinaire, ça, on va dire, c'est une sexualité régressive, dont l'objectif, finalement, pourrait simplement être de décharger un surplus d'énergie et de violence. Donc c'est super important de bien comprendre qu'effectivement, cette nécessité de s'enraciner dans sa propre puissance, dans sa propre énergie, en dessous de l'espace de la sexualité, en conscience, est important, parce qu'on veut dire que le premier espace de décompactage de l'énergie de vie, donc de puissance, donc potentiellement de violence, va passer par le premier filtre comportemental qui est perpétrer l'espèce, donc la violence éventuellement d'une sexualité prédatrice. Dans les moments que souligne Sylvie, par exemple, où effectivement il y a moins de disponibilité de la femme pour la sexualité, donc en tant que décharge, il est bien évident qu'à ce moment-là, cette énergie ne va plus être métabolisée ou transformée par le centre de la sexualité, mais elle va être projetée directement sur le centre de l'ego, voire sur les centres psychiques supérieurs, et ça va amener la personne à avoir des comportements complètement délirants et inadaptés, enfin, sans respect et sans capacité, je dirais, à s'ouvrir à l'autre. C'est-à-dire que l'autre est réduit à l'état d'objet, c'est plus un sujet.
Je dirais même à des comportements totalement dévastateurs. Il ne faut pas limiter l'importance, qui est une importance capitale, de comprendre qu'à notre époque où on arrive à des sophistications hallucinantes dans la communication, par exemple, via Internet, via tous les médias de communication, on puisse encore avoir des gens dans toutes les strates de la société qui n'ont aucune conscience de comment ils fonctionnent. Voilà. D'où pour nous cette urgence de parler d'écologie intérieure et de ne pas seulement être bercé par l'idée qu'il faut s'occuper de la planète et qu'il faut s'occuper de gérer la survie de la planète. La survie de la planète, si les humains continuent à être totalement inconscients de leur fonctionnement, ne va jamais aller mieux. Donc même si c'est peut-être une utopie de penser qu'on peut amener les humains à évoluer, nous on y croit. En fait, on a envie d'amener notre pierre à l'édifice de cette évolution.
On fait plus que d'y croire en réalité, puisque notre conviction se situe au niveau de la prise de responsabilité de chacun. C'est-à-dire que notre idée, ce n'est pas d'envisager que nos politiques ou que les grandes organisations internationales, l'OMS, l'UNESCO, le FMI, enfin et tous les autres, vont prendre en charge le devenir de l'humanité. Ça, c'est pas ce qu'on, nous on pense pas, on n'y croit pas. Ce qu'on sait par expérience, c'est que lorsqu'on s'assoit soi-même et qu'on oriente notre attention vers nos propres mécanismes de fonctionnement à l'intérieur, qu'on ouvre cet espace à l'intérieur, au silence, à la disponibilité. Là, on commence à faire quelque chose, réellement en termes de changement, puisqu'on n'est plus pris par la périphérie, je dirais, de l'agitation confusionnelle qui occupe la plupart des humains, y compris les occidentaux, et qu'à ce moment-là, on peut se rendre disponible pour la vie, je dirais, à travers nous. Donc la responsabilité qu'on a, c'est, si je résume, c'est d'orienter notre attention vers nos mécanismes de fonctionnement, notre complaisance, nos conditionnements, tout ce qui est limitant, et de prendre la mesure des moyens à mettre en œuvre pour changer ça. Et là, il n'y a que nous qui pouvons le faire, personne d'autre.
Alors du coup, l'énergie, elle se travaille aussi, non? Oui. Parce qu'on est finalement coupé d'elle. Donc peut-être que ces actes de violence s'expliquent aussi par rapport à cette coupure.
Je fais juste peut-être la oui, soudure, si tu veux bien. Vendredi dernier, par exemple, nous avons animé, Sylvie et moi, un atelier où justement le thème de notre travail, c'était cette coupure, en fait, je dirais, entre l'énergie du corps et le reste de l'énergie, enfin ce qu'on pourrait appeler globalement l'énergie de la vie, et puis aussi la manière dont, d'une certaine manière, les gens vont se couper de cette énergie, hein, globale, pour se rapatrier juste sur des espaces confortables. Alors, on a fait des choses qui étaient très simples, en fait, comme simplement, et c'est une invitation à la limite que chacun peut prendre pour lui-même en tant que micro-pratique chez lui à la fin de cette émission. On a fait quelque chose de très simple, par exemple, c'est déjà s'asseoir et juste observer à quel endroit du corps il y a des tensions ou des sensations. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Alors, est-ce que j'ai plus de tension au niveau de la tête? Est-ce que j'ai plus de tension au niveau de mon dos? Est-ce que je sens une sorte de vide à l'intérieur de mon ventre parce que c'est la fin de la journée, je suis fatigué, enfin, etc., etc. Et ensuite, à partir de cet état des lieux, il faut comprendre qu'on peut mettre en œuvre un certain nombre de moyens pour soit fluidifier l'énergie dans les zones où elle est trop compacte, trop dense et qu'elle génère une forme d'inertie, ou au contraire dans les zones où c'est vide, où l'énergie pourrait venir remplir. Hein. Alors une fois qu'il y a, il y a moins d'énergie concentrée à certains endroits, un peu plus d'énergie aux endroits qui sont vides, il suffit simplement de donner un peu de mouvement au système pour que l'énergie circule, se fluidifie, et que le courant de la vie, finalement, s'anime à l'intérieur de nous.
Juste aussi, en précisant qu'il n'y a pas forcément besoin, sans chercher à la contrôler, cette énergie.
Oui, non, bien sûr. Je pense qu'il y, avait, il y a tellement, tellement à dire sur, sur la compréhension de ce que Gérard vient d'expliquer. Parce que, en fait, aller écouter ce qu'on ressent, c'est quelque chose qui est déjà totalement rarissime à notre époque, parce qu'on ne fait que écouter des choses extérieures. Donc déjà, écouter ce qu'on ressent, c'est déjà une première étape qui est très très importante. Parce que rien que le fait de ressentir change les choses. C'est là où le genre d'exercice, par exemple, qu'on propose aux personnes qui viennent dans les ateliers ou dans les groupes, est très spécifique. Parce que, par exemple, ce sont des mouvements d'activation de l'énergie, mais tout en restant sur place, accompagnés de musique, accompagnés d'un rythme particulier, qui vont permettre à ce moment-là de suivre, que cette musique vienne rencontrer notre ressenti à l'intérieur. Et je voulais juste préciser un peu ça pour dire que ce n'est pas du tout la même chose que d'aller, par exemple, faire de la gymnastique ou faire toutes sortes de sports, en fait, qui vont... Je ne dis pas que le sport n'est pas bien, bien sûr, le sport est très sain. Mais en fait, le sport va, en général, plutôt aller vers de la tension musculaire. Et la tension, en règle générale, est un empêchement de ressentir. Donc, si faire de l'exercice physique extérieur, comme des sports, est accompagné aussi par une écoute intérieure avec d'autres activités, oui. Mais penser que juste faire des exercices physiques vont suffire à ce que l'énergie circule dans notre corps, malheureusement, non. Mais qu'est-ce qui est bon pour moi ? On ne peut répondre à cette question que si on écoute à l'intérieur de soi la petite voix qui va réellement dire ce qui est bon pour moi. Je crois qu'il y a certaines pratiques qu'on peut faire, c'est vrai, collectivement et qui vont fonctionner. Mais par contre, au niveau de l'écoute et de trouver les clés à l'intérieur de soi, comme dit Gérard tout à l'heure, il n'y a que soi qui pouvons être amenés à faire cette rencontre avec soi-même, qui vont nous délivrer les clés qui seront les bonnes clés pour nous individuellement. Sa ga ma ga ma ga ma ga ma ga ni da ni sa ni sa sa ni sa sa ni ni sa sa ni sa sa ni sa.
Alors en fait, la finalité du tantra, si j'ai bien compris, c'est amener de la conscience dans nos actes. Est-ce que ça permet aussi de quitter cette peur de qui on est, par exemple?
La peur de qui on n'est pas.
Ou de qui on n'est pas.
L'idée, en fait, qui est incluse dans la pratique du tantra, c'est de fluidifier, en fait, tous les aspects de la personnalité. Donc, y compris les espaces qui sont habités par la peur, par nos conditionnements, par nos appréhensions, par nos projections, par nos zones, les zones que nous avons isolées à l'intérieur de nous-mêmes, ou avec nos ressentis, comme on l'évoquait tout à l'heure, ou avec l'environnement, tout simplement. Donc oui, c'est un outil réel de transformation de ces conditionnements limitants ou limités que sont par exemple la peur. N'oublions pas que la peur, physiologiquement, est extrêmement positive puisqu'elle elle sert à sauver notre peau. Hein? La peur, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'est pas une finalité en soi, ni, je dirais, une obligation. C'est le début, c'est une info de la peur de la mort, par exemple. On va... d'étendre, si j'ose dire, cette énergie qui est contenue dans la peur et qui nous empêche de vivre, pour progressivement laisser la place à la vie.
Parce que l'énergie, c'est la vie.
L'énergie qui circule, l'énergie c'est la vie. L'énergie qui stagne, c'est la mort. C'est la
et l'énergie qui circule, c'est la créativité, évidemment. On est immergé dans la créativité issue, évidemment, d'un grand mystère, puisqu'on pourrait dire issue de Dieu pour ceux qui croient, issue du Big Bang pour les autres, issue de on ne sait où.
Mais nous sommes au moins une création.
Nous sommes une création, nous sommes une créature, mais nous sommes aussi une création. Et nous, dans cet attribut finalement divin qui nous habite, nous avons nous aussi cette énergie de créativité qui est là, qui ne demande qu'à être là au service de l'expression de qui nous sommes en tant qu'être unique. Krishnamurti, qui est aussi un très grand sage, disait en fait chaque être humain est comme une fleur unique.
Donc, d'où l'intérêt à activer la Kundalini pour être plus créative dans sa vie, ouais. Et aussi peut-être changer notre relation à nous-mêmes et aux autres et au monde.
C'est ça. Peut-être préciser quand même que l'éveil, entre guillemets, de la Kundalini, donc de notre énergie de vie à l'intérieur de nous, est une conséquence. Ce n'est pas une finalité.
Un peu plus dans l'aspect pratique par rapport à votre approche du tantra. Comment est-ce que vous l'intégrez dans votre travail d'accompagnement? Est-ce que vous l'associez à d'autres techniques? Peut-être nous parler un peu des stages.
On peut parler un petit peu de ce qu'on fait dans nos ateliers ou dans nos stages. Il est certain que en fait c'est un peu difficile de comme tel qu'on l'a dit tout à l'heure. Puisqu'on a donné cette définition du tantra, c'est ce qui englobe tout. On pourrait dire que aussi toutes les techniques qu'on utilise dans notre travail sont aussi finalement englobées dans cette idée de l'éveil de la Kundalini. Donc on a une grande boîte à outils, formidable puisqu'on est très créatif. Donc en plus on en invente tout le temps. On est très strict aussi par rapport à l'utilisation de ces outils, de pas justement que tu sais il y a un grand terme qui dit ah, on va s'éclater. Bon, nous, on serait plutôt un peu à l'inverse de dire s'éclater, bien que par moments, bien sûr, on danse, on s'amuse, on se libère. Mais après, on va réintérioriser cette énergie de vie qu'on aura mobilisée pour aller voir à l'intérieur ce qui se passe et pour vraiment aller faire le travail. On utilise beaucoup la musique. Ben, on va aller chercher des musiques, par exemple, traditionnelles, très fortes, qu'on va puiser chez les peuples premiers, qui sont très enracinés. Mais dans le même week-end ou le même atelier, on va faire des expérimentations seules, on va faire des expérimentations à deux, on va faire des expérimentations tout le groupe ensemble. Donc, c'est très, très, très varié, c'est très riche. Et on s'adapte en permanence à qu'est-ce qui se passe dans l'instant. En plus, on est aussi obligé de partir de ce qui se passe pour nous dans nos vies réciproques. Donc, c'est aussi toujours nos expériences de vie du moment qui nous inspirent aussi pour rentrer dans les pratiques avec, avec les autres personnes.
Il y a aussi beaucoup d'espace pour du temps de parole, hein.
Oui, alors ben, il y a évidemment, on en parlait largement, j'en dis quelques mots pour commencer, mais c'est vrai que le travail de s'exposer vis-à-vis d'autres personnes qui sont là est un travail extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est très facile d'être complaisant avec soi-même quand on est seul ou quand on est à deux. C'est beaucoup plus difficile d'être complaisant quand on est dans un cercle de gens, 10, 15, 20 personnes. C'est comme si on avait un miroir avec 10, 15, 20 facettes qui vont d'un seul coup vous renvoyer votre propre histoire, soit à travers leurs histoires à eux, soit à travers les peurs que certaines présences vont déclencher chez nous. Et le processus du groupe est un processus très accélérant, pendant lequel on va vivre des choses très marquantes qu'on pourra après ramener dans sa vie de tous les jours. Et éventuellement retravailler aussi au niveau soit corporel, soit psychologique dans des séances individuelles. Mais disons que l'expérience du groupe, pour moi, elle est fondamentale.
L'expérience du groupe est d'autant plus fondamentale qu'elle permet, au-delà de cette notion de facette, d'acquérir une compréhension beaucoup plus complète. Parce que d'une certaine façon, nous-mêmes, nous avons un regard, par exemple, sur nous-mêmes, ou la personne qui est à côté de moi va avoir sa propre compréhension de ce qui se passe pour elle. Mais si dans une ambiance d'accueil, de respect, de disponibilité. Elle peut déposer simplement ce qui se passe pour elle, sans jugement. Hein, puisque nous, notre travail, c'est justement d'aller chercher les freins ou les limitations au changement et lever les restrictions, je dirais, des conditionnements. Il n'y a aucune peur, je dirais, impossible à dépasser dans un groupe où justement on choisit de venir librement, où on prend, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la responsabilité de son propre changement, donc de faire le diagnostic de ce qui se passe pour nous, et d'accepter, le cas échéant, au moins d'entendre quelle micro-pratique ou quelle orientation on peut mettre en place pour changer ça. Mais après, on est libre de ne pas le faire.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples de transformation ? Quelle transformation vous voyez après, quand vous revoyez les gens ?
C'est très riche et très, très varié. On pourrait certainement donner beaucoup d'exemples. On pourrait prendre peut-être un exemple très, très simple qui illustre bien ce travail. Par exemple, on pourrait prendre le cas d'une femme, 35-40 ans, avec beaucoup de difficultés de relation avec les hommes, manque de confiance en soi, ayant presque fait une croix sur l'idée de pouvoir avoir une relation normale avec quelqu'un. Et qui, à travers le travail fait dans nos stages, dans nos groupes, a totalement laissé, comment dirais-je, retomber comme les feuilles mortes d'un arbre, toutes ces idées qu'elle avait sur elle-même. Et petit à petit, sa créativité, l'énergie vivante qui s'est remise en route, a généré énormément de modifications, d'ailleurs aussi bien physiques que psychologiques que psychiques. Son énergie est devenue beaucoup plus lumineuse, et donc elle a évidemment énormément attiré d'hommes. Et on pourrait dire qu'elle avait presque l'embarras du choix. Et qu'après avoir expérimenté la possibilité des partenaires, eh bien, elle a eu la chance de rencontrer vraiment un amour très profond et très, très stable pour elle dans sa vie. Et c'est une vraie révolution pour quelqu'un. Ça donne un exemple. À part ça, il est évident que toutes les personnes qui viennent, quand elles sont sincères et quand elles se donnent vraiment les moyens de comprendre et de débloquer ce qui les empêche d'être vivants, ont évidemment des bénéfices phénoménaux dans leur existence. Évidemment, ça va prendre une teneur particulière pour chacun.
Et demander du temps.
Mais quelquefois, ça peut être beaucoup plus rapide que ce qu'on veut bien penser. L'énergie ne connaît pas le temps. Le temps, c'est un espace très psychologique chez nous. Et bien sûr, c'est aussi l'espace du corps, c'est l'espace du vieillissement, c'est l'espace de tout ça. Mais réellement, quelqu'un qui a une énergie circulante a une fraîcheur, même si la personne a 50, 60, 70, 80, peut avoir exactement la même énergie que celle d'un enfant. Parce que l'énergie d'un enfant, ce qui la caractérise, c'est la fraîcheur. Or, l'énergie qui est libérée par les gens éveillés a cette fraîcheur-là et cette innocence. Mais cette innocence, évidemment, empreinte de sagesse et de conscience, mais la même énergie qu'un enfant.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire que le tantra serait un chemin d'éveil ?
Oui, évidemment. L'éveil, on va dire, c'est quoi ? C'est 100% de l'éveil des sens. Des sens physiques, des sens plus subtils, comme l'intuition, comme la prémonition, comme tout un tas de choses comme ça qui placent justement la connaissance ou la conscience en dehors du temps. Donc le tantra, c'est évidemment, enfin du moins dans notre conception, un chemin d'éveil, et cet éveil est quand même la finalité, me semble-t-il, du statut d'être humain, d'être complètement disponible pour la vie, complètement ouvert, mais en même temps totalement présent, conscient de nos responsabilités, qui sont infimes, c'est-à-dire d'être juste des vecteurs, des supports de transformation de la vie et de l'énergie.
Notre thématique majeure, c'est écologie intérieure, écologie extérieure. Et par cette formulation, on veut bien dire que notre expérience d'éveil, entre guillemets, ne peut fonctionner que si d'un seul coup, on se remet aussi dans les crins de la nature dont nous faisons intégralement partie. C'est pas parce qu'on pense, c'est pas parce qu'on est capable d'objectiver des pensées en tant qu'animal verticalisé, si je puis dire avec beaucoup de respect pour l'homme, mais c'est tout de même le cas, de savoir à quel point notre appartenance au tout est tellement essentielle à comprendre. Et quand on parle d'écologie, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parle de prendre soin de la planète et qu'on ne parle pas de prendre soin de l'être et de soi-même, c'est-à-dire notre propre, terre, notre propre air intérieur, notre propre feu intérieur et notre espace et toutes ces différentes parties de nous-mêmes, on est totalement isolé à ce moment-là. Et nous, notre objectif, c'est de se remettre en adéquation intérieurement et extérieurement avec quelque chose de plus harmonieux. Et le respect pour nous-mêmes à l'intérieur et à notre sens complètement fondamental, sinon... Comment pourrait-on donner à la planète ce que l'on ne se donne pas à soi-même ? Et on ne peut pas être malade à l'intérieur et vouloir soigner la planète.
Mais j'ai l'impression que de toute façon, on commence à être dans une ère de transformation qui invite chacun à se transformer soi-même à l'intérieur, prendre soin de lui-même. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, qui invitent les gens à être dans cette approche d'eux-mêmes.
Oui. Simplement, je dirais malheureusement, ça touche quelques pourcents de la population mondiale, souvent les plus nantis. Si on se réfère aux effets, par exemple, des lois de la physique quantique, on sait qu'il suffit de changer 1% des éléments d'une solution ou d'une société pour que le changement apparaisse de façon radicale. Donc moi, je forme le vœu, là maintenant, que 1% au moins de la population française, et peut-être seulement de notre pays, déjà en premier lieu, hein, et au moins des auditeurs de la radio, prennent cet engagement avec eux-mêmes de faire leur propre transformation. Et juste 1%, ça suffit. On n'a pas besoin d'espérer plus.
Après, ça fait boule de neige.
Ça fait boule de neige. La transformation apparaît.
Tout à fait, mais je n'ai de cesse, et quelquefois je passe peut-être pour quelqu'un d'un petit peu pesant, mais je pense que l'engagement qu'on a vis-à-vis de ce chemin intérieur me paraît très souvent mal compris, parce qu'on voit dans les personnes qui viennent autour de nos activités, des gens qui viennent goûter à quelque chose. Je trouve l'engagement très très tiède, Et peut-être parce que nous, on a eu une vie tellement engagée depuis très jeune, qu'on a beaucoup de mal à comprendre ça. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ce travail-là produit un changement de vie phénoménal dans le bon sens du terme, et qu'on est quand même à une époque où c'est tout de même une urgence. Et je trouve que l'urgence à se transformer n'est pas prise vraiment à la mesure de ce qu'elle devrait être.
Est-ce que c'est justement ce manque d'engagement n'est pas lié aussi à la peur de soulever des couches noires qu'on a en soi et qui peuvent être très très douloureuses pour la personne?
Oui, bien sûr, mais on sait bien que si la peur est limitante, elle n'est pas non plus un obstacle insurmontable. Dans tous les jours de notre vie, on rencontre des situations où on peut être confronté à la peur, alors des petites peurs, des grandes peurs, des choses effrayantes, etc. Mais tout ça, la graine, si j'ose dire, de ces peurs, elle est d'abord dans notre propre esprit. Il n'y a pas de choix, et je crois que ce qui peut donner pour nous, effectivement, une dimension trop sérieuse à notre positionnement et à notre engagement, une certaine véhémence, c'est qu'on sait que c'est possible, et ça m'énerve, ça nous agace, ça m'énerve personnellement de voir tout ce potentiel, tout ce frémissement justement de conscience là, qui demande à s'exprimer, etc. Et en face, bah, nos contemporains gentils, oh oui, bah tiens, on va faire un petit peu de tantra ici, miam miam miam, oh, c'est pas mal, ouais. Ah oui, mais moi, une fois que j'ai goûté que ça a amélioré ma sexualité, que j'ai un petit peu plus d'énergie, je m'arrête là. Hein? Et puis d'autres vont vous dire, ah oui, mais moi j'ai besoin quand même que mon petit cœur qui est un peu serré il s'ouvre, donc je m'arrange avec ça. Donc je caricature un peu volontairement, mais en même temps c'est assez incroyable que justement dans cette puissance potentielle de transformation et de changement que tout le monde revendique, il y en ait aussi peu qui disent, mais moi je vais le faire. Voilà. Alors nous on est au moins deux. Bah, maintenant trois avec toi, Anne-Claire. Et voilà, et c'est juste exercer notre responsabilité dans la bonne humeur, dans la détente, dans la rigueur, dans la continuité.
Voilà, je pense que c'est surtout ce mot. On va parler de continuité parce que je pense que la continuité, moi je prends souvent cette image de nous, on guide comme un guide de montagne, ok, on peut monter l'Himalaya, mais après il faut faire un certain effort. Voilà. Et on sait, nous, parce que justement, on y a déjà été en haut. On sait ce que c'est tellement extraordinaire d'avoir gravi cette montagne. C'est comme si on savait que c'était tellement bon qu'on aimerait que tout le monde ait envie de goûter à ce bon-là. Quand il y en a quelques-uns qui décident vraiment de passer les caps des premiers efforts et qu'on arrive à 7000 mètres et que tout le monde a la banane jusqu'aux oreilles et que tout le monde est trop content et trop heureux.
Il y a des bananes sur l'Everest.
Et à ce moment-là, nous, on est carrément trop contents.
L'engagement aussi se prolonge avec l'apparition d'un livre qui s'appelle L'Homme Tout, qui va sortir quand d'ailleurs ?
Ce livre sera disponible dans toutes les bonnes librairies à partir du 15-20 janvier. On peut d'ores et déjà se le procurer donc, par l'intermédiaire de notre site internet, donc écologie-intérieur.com. Et simplement réglé par PayPal.
Et peut-être juste préciser en quelques mots la thématique de votre livre.
Donc ce livre qui s'appelle L'Homme Tout est en fait plus qu'un résumé de tout ce qu'on vient d'évoquer là pendant cette heure passée. On fait au début du livre une sorte d'explication sur justement notre vision de ce que c'est que l'Homme Tout. Nous parlons aussi du pouvoir, nous parlons aussi des perceptions, nous parlons donc de ce que sont les matrices d'apprentissage. Et ensuite, les quatre grands piliers de notre écologie intérieure, ou la façon dont nous, on le partage avec le public. Nous avons donc le chapitre sur le corps, un pilier qui est le tantra, un pilier qui est la créativité, et un pilier qui est la nature à travers le chamanisme. Chacun de ces piliers peut être visité en tant que tel, puisqu'il soutient l'édifice de la même façon que les quatre autres piliers. Et chaque pilier peut être totalement indépendant de l'autre, bien que les quatre, évidemment, forment l'édifice qui soutient cette idée, ce concept de l'écologie intérieure.
Quelque chose à ajouter ?
Peut-être un petit mot sur le sens, pourquoi ces quatre piliers ? Ben simplement parce que, comme nous l'avons dit au début de l'émission, nous sommes des êtres incarnés, probablement des êtres spirituels, mais qui cherchons à faire l'expérience de l'incarnation. Donc un corps saint. Que le deuxième aspect, donc par exemple comme le tantra, c'est un moyen en fait de fluidifier et de dynamiser notre énergie, à la base du coup d'une créativité fournie, riche. Et tout ça, évidemment, existe dans un écrin qui est la nature. En ce qui concerne nos activités concrètes, nous proposons assez régulièrement des ateliers sur Paris, notamment des stages de week-end, soit en résidence ou à Paris en non résidentiel, qui sont des stages sur 2 voire 3 jours. Et puis un stage annuel au moins, un stage d'été qui est une sorte de vacances tantriques créatives, qui est vraiment très très agréable. Voilà, moi j'invite peut-être les auditeurs, pour ne pas surcharger trop d'informations maintenant, je les invite à se rendre donc sur notre site Écologie Intérieure.
On peut préciser peut-être écologie-intérieure.com. Voilà. Au revoir.
Merci beaucoup, merci. Sylvie et Gérard. Merci pour ce merci délicieux à moment. Merci. À bientôt.
À très bientôt.
Sage.